Donc on va étudier le psaume 40. Donc si on pouvait le projeter à l'écran. Voilà, très bien.
Ah, super. Où j'appuie vous en haut, en bas? En bas?
Donc on va étudier le psaume 40, alors je l'ai projeté à l'écran donc dans la version justement Martin, dans laquelle j'ai fait mon étude, mais vous pouvez suivre dans vos Bibles aussi si vous voulez. Donc je vais lire pour vous le psaume 40. Psaume de David, donné au maître chantre. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est tourné vers moi, et a ouï mon cri. Il m'a fait remonter hors d'un puits brillant et d'un bourbier fangeux. Il a mis mes pieds sur un roc et a assuré mes pas. Et il a mis en ma bouche un nouveau cantique, qui est la louange de notre Dieu. Plusieurs verront cela, et ils craindront, et se confieront à l'Éternel. Oh, que bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'Éternel pour son assurance, et qui ne regarde point aux orgueilleux, ni à ceux qui se détournent vers le mensonge. Éternel, mon Dieu, tu as fait que tes merveilles et tes pensées envers nous sont en grand nombre. Il n'est pas possible de les arranger devant toi. Les veux je réciter et dire, elles sont en si grand nombre que je ne les saurais raconter. Tu ne prends point plaisir au sacrifice, ni au gâteau, mais tu m'as percé les oreilles. Tu n'as point demandé d'holocauste, ni d'oblation pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi au rôle du livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Verset 9. J'ai prêché ta justice dans la grande assemblée. Voilà, je n'ai point retenu mes lèvres, tu le sais, ô Éternel. Je n'ai point caché ta justice, qui est au-dedans de mon cœur. J'ai déclaré ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point scellé ta gratuité, ni ta vérité dans la grande assemblée. Et toi, Éternel, ne m'épargne point tes compassions, que ta gratuité et ta vérité me gardent continuellement. Car des maux sans nombre m'ont environné. Mes iniquités m'ont atteint, et je ne les ai pu voir, elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon secours. Que cela soit tous honteux et rougissent ensemble, qui cherchent mon âme pour la perdre, et que ceux qui prennent plaisir à mon malheur retournent en arrière et soient confus. Que ceux qui disent de moi, ah ah, ah ah, soient consumés en récompense de la honte qu'ils m'ont faite. Que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ta délivrance disent continuellement « Magnifié soit l'Éternel ». Or, je suis affligé et misérable, mais le Seigneur a soin de moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde point. Donc effectivement, juste en passant, avant de commencer le message, vous voyez, donc ça c'est la traduction de Martin, qui date de 1720 environ, donc c'est un français plus ancien. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, de varier dans nos lectures différentes traductions, parce que il y a un seul texte original, mais il peut y avoir des interprétations différentes. Donc c'est toujours enrichissant de pouvoir comparer les traductions les unes aux autres. Donc l'auteur de ce psaume donc, est David, comme cela est dit clairement dans le premier verset. Il s'agit d'un psaume de supplication et d'action de grâce. Donc les circonstances de la rédaction de ce psaume ne sont pas connues, mais David était manifestement dans un grand désarroi. Est-ce que c'était du fait de circonstances extérieures hostiles ou bien d'une détresse intérieure, on ne le sait pas. Mais même si le psaume trouve son origine dans une expérience vécue par David, cet aspect passe vraiment au second plan du fait que les versets 6 et 7 sont cités en hébreu, chapitre 10, 5 à 7, à propos de Jésus. Donc les versets 6 et 7 que vous voyez là donc à l'écran, effectivement, ils sont cités à propos de Jésus dans l'hébreu 10, 5 à 7. Et comme dit Spurgeon à propos de ce passage, quand le soleil se lève, les étoiles ne sont plus visibles, autrement dit, la situation personnelle de David, elle passe au second plan à cause de la gloire de Christ, donc qui est en fait décrite dans ce psaume. Et en fait, la référence de ce psaume dans le Nouveau Testament, elle nous impose de le lire comme étant une prière de Christ. Et on se rend compte quand même, on peut comprendre tout le psaume comme étant une prière de Christ. Au même titre que par exemple le psaume 22. C'est donc principalement comme ça que nous allons l'étudier, tout en gardant quand même des applications qui peuvent aussi être faites dans la vie d'un chrétien. Mais principalement, on va le regarder comme étant une prière de Christ. Donc le psaume, il peut être divisé en trois grandes parties. les versets 1 à 5 qui expriment la reconnaissance du psalmiste pour une prière exaucée. Donc versets 1 à 5, la reconnaissance du psalmiste pour une prière exaucée. Les versets 6 à 10 qui sont la proclamation de l'œuvre de rédemption de Christ. Et enfin les versets 11 à 17 qui sont une prière pour la délivrance. Donc tout d'abord, regardons les versets 1 à 5, donc reconnaissance du psalmiste pour une prière exaucée. On voit tout d'abord, donc au verset 2, on voit la situation du psalmiste. Il est dit qu'il est dans un puits bruyant, dans un bourbier fangeux. La Bible du Second, elle parle de la fosse de destruction et du fond de la boue. Donc le terme puits bruyant peut surprendre, mais en fait, c'est une traduction exacte. D'ailleurs, c'est souvent la Bible Martin, comme la Bible King James d'ailleurs en anglais, sont beaucoup plus proches du texte original. Parfois peut-être trop, pourra-t-on penser. En tout cas ici, c'est bien le mot bruyant qui est dans le texte original. Et en fait, ce même mot dans d'autres passages, donc ce même mot hébreu dans d'autres passages, fait référence au mugissement de la mer, psaume 65, ou au tumulte des nations, Ésaïe 17. Et Spurgeon ici voit Christ enfermé dans un noir cachot, dans une oubliette, comme on dit, au-dessus de laquelle retentit le piétinement de ses ennemis furieux. Et il est aussi dans un bourbier fangeux, donc dans la boue. Et on pense à Jérémie, au prophète Jérémie, qui a été terriblement persécuté et qui fut jeté dans une citerne et dont les jambes s'enfonçaient dans la boue, par ses opposants, bien sûr. Donc je lis pour vous donc dans Jérémie 38, verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Donc le verset 2 du psaume, ce verset qu'on a devant les yeux, il décrit la profonde angoisse spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion, qui commença dans le jardin de Gethsémané, la veille de sa crucifixion. Et on veut regarder un extrait, si vous voulez bien regarder dans vos Bibles, au Matthieu 26. On va lire un petit passage, Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, verset 36, qui nous décrit la peine du Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez, éveillez avec moi. » Et en Luc 2, je l'ai pour vous, Luc 22, 44, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Donc il était en agonie, son cœur était triste jusqu'à la mort. Et le verset 12 du psaume, nous décrit le sujet de cette angoisse. Donc dans le verset 12, nous lisons « Car des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint, je ne les ai pu voir, elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. » Alors Christ n'avait absolument aucune iniquité en lui-même. Il n'avait aucune iniquité en lui-même. Et une telle condition est inconcevable pour nous qui vivons dans le péché comme depuis notre naissance, comme malheureusement notre environnement naturel. Mais lui n'avait jamais commis un acte, ni prononcé une parole, ni eu une pensée qui soit contraire à la volonté de Dieu. Et donc les iniquités dont il est atteint, ce ne sont pas les siennes, mais ce sont les nôtres. Et en 2 Corinthiens 5, 21, et vous pouvez regarder dans vos Bibles, 2 Corinthiens 5, 21, très, très important verset, 2 Corinthiens 5, 21, qui nous dit que celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a point connu de péché, c'est-à-dire Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Nous avons transféré nos péchés à Christ. Et Galates 3, 13 dit que sur la croix, il est devenu malédiction pour nous. Donc les iniquités dont il est parlé ici, qui ont atteint Christ, elles sont celles du peuple qu'il a racheté. Elles surpassent en nombre les cheveux de sa tête. C'est certainement une image d'un nombre qu'on ne peut pas compter. Qui pourrait compter les cheveux de sa tête? Innombrable comme la somme de tous les péchés de son peuple. Dans l'incarnation, Christ, il s'est entièrement identifié à son peuple, du baptême jusqu'à son châtiment pour nos iniquités. Il a pris nos iniquités comme si elles étaient les siennes. Et le verset 12 décrit la souffrance qui en résulte, qui résulte de ce fardeau de péché, son cœur l'abandonne. Et ceci fait écho aux paroles de Jésus dans le jardin, lorsqu'il dit « Mon cœur est triste jusqu'à la mort ». Mais Christ a prié, et sa prière a été exaucée. Et nous voyons cela au verset 1, où il est dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est tourné vers moi, il a ouï mon cri ». On voit la patience, dans ce verset, on voit la patience de la prière du Seigneur. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il n'a pas désespéré, il a conservé la foi à partir de cette soirée dans le jardin, puis au travers des différents procès, des insultes, des coups de fouet, de toutes les maltraitances, jusqu'à la terrible souffrance sur la croix. Et surtout, sous le poids de la colère de Dieu à cause de notre péché. Il a patiemment attendu l'Éternel, il a conservé la foi. Le Seigneur l'a entendu, notre texte dit que l'Éternel s'est tourné vers lui, d'autres traductions disent qu'il s'est incliné vers lui. Et voilà, que ceci soit pour nous un exemple de persévérance, confiante et patiente dans la prière et dans l'épreuve. Puis, il a été merveilleusement exaucé. Nous voyons cela au verset 2, où il est dit que l'Éternel, donc, l'a fait remonter hors du bourbier fongeux, il a mis ses pieds secs, ses pieds sur un roc, et il a assuré ses pas. Il a mis ses pieds sur un roc. Donc il l'a fait remonter hors du puits brillant et du bourbier fangeux. Et il a mis ses pieds sur un roc et il a assuré ses pas. Cette image, elle est magnifique. Elle traduit ce que David a dû ressentir quand sa prière a été exaucée. Il a échangé l'angoisse de s'enfoncer comme dans la boue avec la sensation de se tenir debout fermement sur un roc. Jérémie aussi, il a été sorti de ce bourbier. Et non seulement, donc David se tient sur un roc, mais il reprend la marche de façon assurée. Il a assuré mes pas. D'autres traductions disent, il a affermi mes pas. Et on ne peut pas passer à côté de cette expression, il a assuré mes pas. Non seulement le Seigneur nous restaure, mais il nous accompagne dans notre marche. Il restaure et il accompagne dans la marche. Et donc c'est l'œuvre que peut faire l'Éternel quand nous prions dans une situation d'angoisse. Évidemment, cette image du roc ou du rocher, c'est une image de Christ tout au long de la Bible, tout au long de la parole de Dieu, dans de nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est, par exemple, le rocher des siècles, en Ésaïe 26, verset 4, le rocher des siècles. Il est la pierre angulaire, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est Ésaïe 28, 16, et c'est cité en Romains 9, 33. Donc, beaucoup de passages qui parle de Christ comme étant la roc, le rocher. Et donc, quel beau contraste entre le bourbier fangeux de nos angoisses, si nous sommes livrés à nous-mêmes, et ce roc sur lequel l'Éternel nous établit, et ce roc, c'est son Fils. Donc, cette extraordinaire délivrance par Dieu pousse le psalmiste, on le voit au verset 3, à le louer par un cantique. Il habite dans ma bouche un nouveau cantique. Et nous pensons, cette exultation de joie dans le cantique, on pense à Moïse. Je pense à Moïse et au peuple d'Israël, qui était tellement stupéfait de cette délivrance de l'armée d'Égypte en ayant traversé la mer à sec et d'avoir vu l'armée égyptienne noyée. Ils ont crié de joie et chanté un cantique, une fois passé sur l'autre rive de la mer Rouge. Et ce cantique commence ainsi, je cite pour vous en Exode 15, verset 1, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Puis au verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté ?» Et Marie, même la sœur de Moïse, elle exulte de joie, elle danse de joie avec toutes les femmes en tapant sur des tambourins. Donc puisse le Seigneur mettre dans notre cœur une même joie à cause de sa délivrance, en particulier la joie de son salut. C'est ce dont David parle dans le psaume 51, verset 14, après avoir gravement péché, il demande à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Mais ce passage, il s'applique, donc ça peut s'appliquer à nous, mais il s'applique aussi à Christ. Christ est sorti du bourbier, il a été établi sur un roc et ses pas ont été affermis. Quand tout a été accompli, Christ a été libéré du bourbier fangeux par son Père. Il a rendu l'esprit, il a été accueilli dans le paradis, puis il est ressuscité et il est monté dans les cieux, où il est assis à la droite du Père, où il règne, car toute autorité lui a été donnée. Et en fait, Christ, il a aussi connu cette joie, il a aussi connu cette joie, et ça nous est dit en Hébreux 12, verset 2, Hébreux 12, verset 2, vous pouvez regarder dans vos Bibles, Hébreux 12, verset 2, il décrit cette séquence de souffrance, de délivrance et de joie. Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, là il y a la joie, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Remarquons maintenant au verset 3, donc à la fin du verset 3, la réaction de ceux qui sont témoins de cette délivrance. Plusieurs verront cela et se confieront en l'Éternel, dit le passage. Donc la contemplation de la croix de Christ, plusieurs verront cela et ils craindront et se confieront en l'Éternel. La contemplation de la croix de Christ, elle doit provoquer la crainte de l'Éternel. Si Dieu a châtié son propre Fils pour le péché des hommes, quel sera mon châtiment? S'il a châtié son propre Fils qui était sans péché, pour mon péché, quel sera mon châtiment? Alors qu'il est en chemin portant sa croix, Christ, à cette phrase, il dit aux femmes de Jérusalem qui se lamentaient sur lui, « Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Donc si on me fait ça à moi, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Et cette crainte, elle doit nous amener, cette crainte de l'Éternel, donc plusieurs verront cela et ils craindront devant le châtiment de Christ, en se disant « Mais ce châtiment, il était pour moi ». Qu'est-ce qui va m'arriver? Cette crainte, elle nous a amené à nous confier en l'Éternel et dans l'œuvre de Christ sur la croix. Et ils se confieront en l'Éternel. Donc ils voient le châtiment, ils craignent à cause de leur péché, mais ils se confient dans l'Éternel pour le salut, par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Les versets 4 et 5 décrivent en fait les versets 4 et 5 qui décrivent le contenu de ce cantique. De ce cantique nouveau qui jaillit du cœur de ceux qui sont délivrés comme Moïse et le peuple. Oh, que bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'Éternel pour son assurance et qui ne regarde point aux orgueilleux, ni à ceux qui se détournent vers le mensonge. Donc on voit dans ce verset 4, en fait, on voit l'opposition entre d'une part l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, bienheureux est l'homme qui s'est proposé l'Éternel pour son assurance, selon Martin, ou qui met sa confiance en l'Éternel, selon Louis II, et d'autre part les orgueilleux. Vous voyez donc la deuxième partie du verset, c'est les orgueilleux. Les orgueilleux, ils mettent confiance en eux-mêmes. C'est la définition d'un orgueilleux. Mais nous voulons mettre notre assurance en l'Éternel. Et nous voyons que mettre sa confiance en soi-même, c'est se tourner vers le mensonge. Parce que c'est un mensonge que de croire qu'on peut se sauver par soi-même. Au verset 5, on voit que le psalmiste s'extasie devant l'étendue des merveilles et des pensées de l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu as fait que tes merveilles et tes pensées envers nous sont en grand nombre. Il n'est pas possible de les arranger devant toi. Les veux-je réciter et dire, elles sont en si grand nombre que je ne les saurais raconter. Donc les pensées de l'Éternel, elles sont, merveilles et pensées de l'Éternel sont en profusion, tellement qu'on ne peut pas les compter, les mettre en ordre. Cela dépasse nos capacités, c'est ce que veut dire cette expression, les arranger en ordre devant toi, qui est une traduction proche du texte original. Plusieurs autres passages de la Bible évoque cette profusion des œuvres de l'Éternel. Ainsi, Jean 20, 25, qui est le dernier verset de Jean, dit ceci, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Et on peut regarder aussi, si vous voulez bien regarder dans vos Bibles, Romains 11, très célèbre passage, Romains 11, qui en fait, on va regarder à partir du verset 33, qui conclut toute la section, je dirais, entre guillemets, théologique de l'Épître aux Romains, avant de commencer la section pratique au chapitre 12. Donc là, Paul s'extasie après avoir fait cette exposition théologique en disant, Romains 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire, dans tous les siècles. Amen. Donc le texte qui parle de ce verset 5, qui parle des merveilles de l'Éternel, donc ce sont ces miracles, aussi bien dans le domaine de la création que dans celui de la nouvelle naissance, du salut, de la résurrection. Et remarquez qu'il parle aussi des pensées ou des desseins de l'Éternel envers nous. L'Éternel, il a un grand nombre de pensées envers nous et de desseins pour nous. Et ça devrait nous rassurer qu'il condescend ainsi autant à préoccuper sa pensée pour nous. Le nombre de ses pensées envers nous, il est peut-être aussi élevé que le nombre de ses rachetés, décrit en Apocalypse 7, verset 9, comme étant une foule, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ou bien s'agit-il peut-être aussi du nombre de pensées et de desseins qu'il a pour chacun d'entre nous, pour lesquels il a souverainement ordonné chaque événement de notre existence. Il connaît tout, depuis le début jusqu'à la fin, de la naissance charnelle, puis la nouvelle naissance, jusqu'à la vie dans l'éternité. Le Seigneur, il a tout ça, il a toutes ses pensées envers nous, tous ses desseins pour nous. Versets 6 à 10 maintenant, nous allons regarder donc la deuxième partie, versets 6 à 10, donc cette partie qui est reflétée en Hébreux 10, donc c'est la proclamation de l'œuvre de rédemption de Christ. Regardons d'abord les versets donc 6 à 8. « Tu ne prends point plaisir au sacrifice ni au gâteau, mais tu m'as percé les oreilles, tu n'as point demandé d'holocauste ni d'oblation pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi au rôle du livre, « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Donc on va regarder Hébreux 10, si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, dans Hébreux 10, et on va lire les versets 5 à 10. Hébreux 10, versets 5 à 10. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. » Verset 8. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici je viens, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Merci. Donc, j'imagine que vous avez bien vu le parallèle qui est fait entre les deux passages. Alors on note, ceci étant dit, vous avez peut-être noté une différence. Dans le psaume, l'expression qui est utilisée, c'est « Tu as percé mes oreilles », au verset 6 du psaume. « Tu as percé mes oreilles ». Alors que dans le verset 5 d'Hébreux, l'expression c'est « Tu m'as formé un corps ». Donc c'est la même chose, mais qui est traduite différemment. En fait, cela vient du fait que l'auteur d'Hébreux cite à partir de la traduction grecque de l'époque, de l'Ancien Testament, qui s'appelait la traduction Septante. Et donc c'est ainsi qu'elle avait traduit ce passage. Cependant, la traduction du psaume « Tu as percé mes oreilles », elle est fidèle au texte hébreu. Dans tous les cas, les deux textes sont inspirés par Saint-Esprit. Je pense qu'on ne doit pas aller plus loin à essayer de comprendre pourquoi il y a une différence. Regardons donc le texte du psaume, en nous aidant donc de l'interprétation inspirée qui en est faite par l'Épître aux Hébreux. Alors, on pourrait être surpris que le psalmiste, et en fait donc Christ, dise à Dieu que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Pourtant, n'est-ce pas Dieu qui a institué tous ces sacrifices dans la loi de Moïse, en particulier dans le livre du Lévitique? Alors, peut-être que, est-ce que c'est que l'Éternel ne veut pas des sacrifices dans le même sens de ce qu'il dit en Ésaïe? Je lis pour vous Ésaïe 1, verset 11, il y a beaucoup d'autres passages similaires. Parce qu'en fait, les sacrifices ne sont pas offerts avec un cœur pur. Dans Ésaïe 20, 1, verset 11, il dit « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Donc le problème des sacrifices tels qu'ils sont décrits là, et encore une fois dans bien d'autres passages de l'Ancien Testament et des prophètes, c'est que ces sacrifices, c'est que les Israélites leur associaient leurs crimes. En fait, ils ne les présentaient pas d'un cœur pur. Et donc, ils n'étaient pas agréés par l'Éternel. Mais ici, ce n'est pas le sens de notre passage. Ce n'est pas le sens du passage dans Psaume 40. Ce ne sont pas les sacrifices du peuple juif, à cause de la façon dont ils sont offerts, dans lesquels l'Éternel ne prend point plaisir. Mais ce sont les sacrifices eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes les sacrifices. En fait, ces sacrifices, ils n'avaient pas de valeur en eux-mêmes. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient pas de valeur en eux-mêmes. Hébreux 10, verset 1, dit qu'ils étaient une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ils étaient l'ombre du sacrifice de Christ, une préfiguration et une annonce de son sacrifice. Et c'était là leur seule valeur. En eux-mêmes, ils n'avaient pas de valeur. Ils avaient une valeur parce qu'ils étaient une préfiguration. Ils montraient ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, tout l'argument d'Hébreux, chapitre 10, c'est de dire aux chrétiens hébreux qui étaient tentés de revenir vers le judaïsme, ils étaient tentés d'abandonner Christ pour revenir vers le judaïsme, de leur dire « Ne vous attachez pas à ces sacrifices qui en même n'ont pas de valeur. » Car le verset 4 dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Donc ces sacrifices, ils étaient institués par Dieu, avec comme seul objectif de pointer à Christ, mais une fois que Christ est arrivé, ils n'avaient plus de valeur. Et en eux-mêmes, ils ne pouvaient pas sauver. Et d'ailleurs, le contraste apporté par l'expression « alors j'ai dit » au verset 7, donc « alors j'ai dit » le montre bien. Christ constate au verset 6 que les sacrifices de l'ancienne alliance étaient insuffisants. En conséquence, il décide de venir s'offrir lui-même. « Alors j'ai dit, voici je viens. » Donc « voici je viens », il y a une décision personnelle, ferme et inébranlable de Christ de s'offrir. Donc, il constate que les sacrifices de l'ancienne alliance ne peuvent pas sauver, et donc ils décident de venir. Alors, on veut s'arrêter un instant sur cette expression « Tu m'as percé les oreilles », donc au verset 6. Comme je l'ai dit, cette traduction, elle est correcte. Le verbe utilisé veut dire « creuser ». Alors, comment peut-on l'interpréter? Il y a plusieurs interprétations, analyses intéressantes. Certains font le parallèle entre ce verset et Exode chapitre 21, verset 6. Si vous voulez bien l'ouvrir, se tourner dans ce passage, Exode 21, verset 6. En fait, ce passage-là, il parle, vous savez, de la relation entre les esclaves et leur maître. Et la possibilité, en fait, qu'un esclave décide de rester attaché à son maître, alors qu'il pouvait être libéré dans le cadre du jubilé, il pouvait décider, alors qu'il pouvait obtenir sa liberté, il pouvait décider de rester au service de son maître. Et dans ce cas-là, le passage nous dit, alors son maître le conduira devant Dieu, il le fera approcher de la porte ou du poteau, et le maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Donc, c'est une magnifique image du sens du service décidé de la part de l'esclave sans pression à cause de l'amour qu'il a pour son maître. On voit que l'esclave sera toujours à son service. Et on voit comment cela peut s'appliquer à Christ, évidemment, qui, comme dit Marc, chapitre 10, verset 45, il est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc il y a une belle image du service. Mais d'autres traductions, comme Louis II, traduisent en disant « tu m'as ouvert les oreilles ». Donc non pas « tu m'as percé les oreilles », comme « percé le lobe de l'oreille », mais « tu m'as ouvert les oreilles ». Et peut-être ont-ils à l'esprit un très beau passage sur lequel nous allons passer un peu de temps, qui se trouve en Ésaïe 50, versets 4 à 7. Et donc, c'est un des passages, ce qu'on a appelé les cantiques du serviteur souffrant, qui se trouve donc dans le livre d'Ésaïe. Le plus célèbre étant Ésaïe 53, mais il y en a d'autres. Ésaïe 50, versets 4 à 7. Et donc là, on va voir l'expression « ouvert l'oreille ». Donc là, c'est Christ qui parle, c'est le serviteur souffrant, mais c'est Christ qui parle. Et il dit ceci, donc je commence au milieu du verset 4. Donc le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière, J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Donc on voit ici deux choses. Donc l'Éternel, il a ouvert l'oreille de Christ pour l'enseigner, et Christ n'a point résisté à cet enseignement, même si cet enseignement signifiait la croix. Au contraire, Christ était déterminé à obéir. Il a pris plaisir à faire la volonté de l'Éternel, dit le verset 8 du psaume. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté. Il a rendu son visage semblable à un caillou, insensible à la douleur, résistant comme un caillou. Et il est allé accomplir la rédemption à la croix. On veut contempler ici, dans ce passage-là, donc cet échange entre le Fils qui parle au Père, on veut contempler ce moment dans l'éternité où, si je puis parler, le Père et le Fils décident du plan de salut pour les hommes. Le Père demandant et le Fils se soumettant joyeusement à la volonté du Père. On a le Père qui demande au Fils de sauver les hommes et le Fils qui répond positivement à cette demande du Père. Certains théologiens appellent cela l'alliance de la rédemption. L'alliance de la rédemption. Et au verset 7 du psaume, il est dit, on voit qu'il est dit que cette alliance, elle est enregistrée dans le rouleau du livre. Alors c'est notre texte, en vieux français, il parle du rôle du livre, mais c'est le même mot, le rouleau du livre. Et en ce temps-là, les livres étaient des rouleaux. Alors de quel livre s'agit-il? Dans quel livre donc cette décision de Christ est enregistrée? Alors certainement, ça peut être la Bible, qui fait de nombreuses allusions à cet accord entre le Père et le Fils, notamment donc dans ce passage d'Ésaïe 50, mais on peut aussi comprendre ce livre comme le registre des décrets divins, là où tout est enregistré. Et David parle ainsi en psaume 139, verset 16, il dit « Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Enfin, je vais remarquer finalement que ces versets 6 à 8 sont parfaitement reliés au reste du psaume. Ils ne tombent pas comme un cheveu sur la soupe, si je puis dire, mais au contraire, la première partie, elle décrit la détresse de Christ dans le sacrifice, et comment il est délivré par l'Éternel, et les versets 6 à 8, ils décrivent l'origine de ce sacrifice. Maintenant, on va regarder les versets 9 et 10. Les versets... Voilà, une mauvaise manière. Versets 9 et 10, donc ils sont toujours dans cette deuxième section. C'est toujours Christ qui parle, et maintenant il a pas eu de sacrifice, mais maintenant il parle d'autre chose. Il parle de prédication, il dit « J'ai prêché ta justice dans la grande assemblée, voilà, je n'ai point retenu mes lèvres. Tu le sais, ô Éternel, je n'ai point caché ta justice qui est au-dedans de mon cœur. J'ai déclaré ta fidélité et ta délivrance, je n'ai point scellé ta gratuité ni ta vérité dans la grande assemblée. » Donc les deux versets, ils sont merveilleusement adaptés à une prophétie sur le ministère de Christ. Donc ce ministère, donc les versets 6 à 8, ils décrivent son sacrifice en tant que souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, et les versets 9 et 10 décrivent le ministère de Christ en tant que prophète. Vous savez que on dit de Christ qu'il est roi, prêtre et prophète. Donc il a effectivement ici, on voit décrit son rôle de prêtre, donc de souverain sacrificateur qui se sacrifie lui-même, et maintenant son rôle de prophète. Alors, dans ces deux versets, remarquons trois choses. Tout d'abord, le contenu de la prédication de Christ. Le contenu de la prédication de Christ. Et on voit ici, au verset 10, hein, il dit qu'il parle de la justice de Dieu, de sa fidélité, de sa délivrance, donc en Louis II, c'est de son salut, et de sa gratuité, donc c'est-à-dire sa grâce, sa bonté, et de sa vérité. Donc justice, fidélité, délivrance, gratuité, vérité. Tous ces thèmes se trouvent encore et encore dans les psaumes, des thèmes très fréquents dans les psaumes. Et par exemple, il y a cette phrase qui revient souvent, je cite le psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la vérité marchent devant ta face. » Donc c'est vraiment des attributs du Seigneur qui sont très souvent mis en avant par les psalmistes. Et en fait, tout cela n'était-il pas le contenu de la prédication de Christ lors de son ministère terrestre, et ensuite sous la plume des apôtres, inspirée par l'Esprit Saint. Donc, on a donc le contenu de la prédication de Christ qui est annoncé dans ce psaume. Et ensuite, on a les destinataires de la prédication. Destinataires de la prédication. Et donc là, il parle de la grande assemblée. Donc le mot hébreu, c'est celui qui désigne l'assemblée du peuple d'Israël. C'est la grande assemblée, donc, qui suggère une multitude. Et ça nous fait penser à ces foules rassemblées sur les rives de la mer de Galilée pour écouter l'enseignement de Jésus. Par exemple, le sermon sur la montagne en Matthieu, chapitre 5. Et donc, troisièmement, regardons la manière de la prédication. La manière de la prédication. Vous remarquez plusieurs fois, je n'ai point, je n'ai point, je n'ai point. En fait, Christ n'a point retenu ses lèvres. Il n'a point caché la justice, la grâce, la fidélité, le salut, la vérité de Dieu. Il les a déclarés, il ne les a point scellés. Ce qui signifie caché. Et en fait, le fait de faire tout ça, ça l'a amené à la croix. Ça l'a amené à la croix. Le fait de ne pas avoir caché toutes ces vérités, ça l'a amené à la croix. Car les Juifs ne supportaient pas d'entendre ces vérités. C'est pour ça qu'il a été crucifié, du point de vue des hommes, bien sûr. Que ceci soit un rappel donc pour notre génération, que nous ne soyons pas tentés de cacher une partie de la vérité, de peur de choquer le monde, ou de retenir une partie de la vérité pour ne pas avoir d'ennui. Même si cela a un coût, nous devons, Christ nous a enseigné de compter le coût avant d'essayer de le suivre, et nous devons, en tant que chrétiens, proclamer la vérité. Dans les temps actuels, où de plus en plus dans nos pays, les pays de l'Occident, on veut éteindre, étouffer la vérité, nous devons, les chrétiens, continuer à proclamer la vérité, quoi qu'il en coûte. Maintenant, regardons les versets 11 à 13. Et donc là, on arrive à la troisième partie du psaume. Donc les versets 11 à 17, regardons d'abord les versets 11 à 13. J'avais intitulé cette partie « Une prière donc pour la délivrance ». La troisième partie, « Une prière pour la délivrance ». Et en fait, cette prière donc qui est à la fin du psaume, c'est celle qui est exaucée au début du psaume. Donc un ordre un peu étrange, on a l'exaucement qui est décrit au début du psaume, le sacrifice qui est décrit au milieu du psaume, et la prière pour la délivrance qui est décrite à la fin du psaume. En fait, cette prière qui est ici, c'est la prière c'est le cri dont il est parlé verset 1, c'est cette prière d'agonie dans le jardin de Gethsémané. Et on remarque au verset 11 que Christ s'en remet à la compassion de son Père, et il invoque sur lui cette grâce et cette vérité du Père, ou cette bonté, cette fidélité qu'il a prêchée pendant son ministère prophétique. Il parle ici de compassion, gratuité et vérité, me garde continuellement. Et au verset 13, Christ demande le secours et la délivrance. Et donc c'est la délivrance dont il est parlé au verset 2. On voit ici, Éternel va me délivrer, Éternel, à toi de venir à mon secours. Donc c'est cette délivrance qui est décrite au verset 2, lorsqu'il est retiré du bourbier fangeux et que ses pieds sont mis sur un roc. On a déjà parlé du verset 12, du point de vue de Christ. Car des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint, je ne les ai pu voir, elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête et mon cœur m'a abandonné. Donc on a vu que ça c'était le péché, nos péchés, les péchés de son peuple qui sont imputés à Christ et qu'il porte pour nous sur la croix. Mais on peut aussi regarder ce verset comme étant prononcé par David. Alors on a vu qu'on peut aussi se rappeler quand même que ce psaume a été écrit par David. Ou même ça pourrait être prononcé par chacun d'entre nous. En fait, les versets 12 et 13, ils décrivent bien la situation du pécheur que nous sommes, qui, sous la conviction du Saint-Esprit, prend conscience de l'étendue de son péché. Est-ce que c'est notre expérience? Est-ce que nous réalisons que nos péchés sont aussi nombreux que les cheveux de notre tête? Est-ce que, comme Ésaïe, nous crions « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Est-ce que notre cœur nous abandonne? Comme il est dit ici, mon cœur m'a abandonné. Est-ce que notre courage nous abandonne, comme dit la traduction Louis II, lorsque nous voyons l'étendue de nos péchés? Ce devrait être notre attitude, l'attitude du pécheur convaincu de pécher par le Saint-Esprit. Réalisons bien cela. Cette phrase-là, elle doit décrire Mes iniquités m'ont atteint, je ne les ai pu voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête. Est-ce que nous sommes conscients que nos iniquités dépassent, surpassent en nombre les cheveux de notre tête? Et on voit au verset 13 la conséquence de cette œuvre de conviction du péché par le Saint-Esprit. Le pécheur appelle l'Éternel à son secours, car il est le seul qui puisse se délivrer. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon secours. Regardons maintenant les versets 14 et 15. 14 et 15. Donc ces versets 14 et 15, je vais les relire. Que cela soit tous honteux et rougissent ensemble qui cherchent mon âme pour la perdre. Et que ceux qui prennent plaisir à mon malheur retournent en arrière et soient confus. Que ceux qui disent de moi, ah ah, ah ah, soient consumés en récompense de la honte qu'ils m'ont faite. Donc ces versets qu'on a ici, ce sont ce qu'on appelle des versets d'imprécation. Ça met toujours les lecteurs chrétiens mal à l'aise, ce genre de versets d'imprécation. Et pourtant, ils sont dans la parole pour une bonne raison, ils sont prononcés par l'Éternel. Et on doit nous rappeler que c'est la prérogative de Dieu que de juger les pécheurs. Et c'est ce qu'il fait ici. Et l'imprécation, elle est destinée en particulier à ceux qui se moquaient de Christ. Sur la croix, à ceux qui disaient « ah 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 », qui se moquaient de lui. Et on se rappelle qu'ils étaient nombreux, et notamment il y avait ce qu'il appelle les magistrats, donc qui étaient les chefs du peuple juif. Donc Luc 23, verset 35, les magistrats se moquaient de Jésus, ils se moquaient de lui, en disant « il a sauvé des autres ». Il se sauve lui-même s'il le Christ élu de Dieu. Donc il passait devant la croix et c'est ce qu'il disait. Et à ces moqueurs, Christ dit qu'il soit consumé. Vous voyez ça? Qu'il soit consumé au verset 15. Qu'il soit consumé en récompense de la honte qu'ils m'ont faite. En fait, nous nous rappelons que Christ avait prédit leur chute quelques jours avant sa crucifixion. Matthieu 23, après un long discours d'imprécation envers les pharisiens, vous lisez ça en Matthieu 23, verset 37, si vous l'avez dans vos Bibles. Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, verset 37. Donc, passage d'imprécation de Christ, parce que Christ, il a aussi fait les imprécations. Jérusalem, Jérusalem, verset 37. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Et le mot traduit ici « déserte » a le sens de « désolation ». Et le mot traduit « consumé » au verset 15 du psaume peut être traduit de la même façon. Vous voyez, il y a ce lien-là, effectivement, qui soit consumé. C'est le sens de la désolation après un carnage. Et c'est ce qui resta de Jérusalem après sa destruction par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ. Regardons enfin donc les versets 16 et 17. Que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ta délivrance disent continuellement « Magnifié soit l'Éternel ». Or, je suis affligé et misérable, mais le Seigneur a soin de moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde point. Donc le psaume, après ces deux versets d'imprécation, il termine sur une note plus joyeuse. Après avoir prononcé l'imprécation envers les leaders du peuple juif qui ont organisé sa crucifixion, Christ prononce la bénédiction sur ceux qui le cherchent et qui aiment son salut. Et donc ça, on le voit au verset 16. Que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ta délivrance disent continuellement magnifié soit l'Éternel. Et si nous sommes de ce groupe, nous pouvons nous réjouir et nous égayer. Nous devons nous réjouir et nous égayer et dire la grandeur de l'Éternel. Et vous savez, la Bible propose toujours des choix binaires entre la bénédiction et la malédiction. Alors sommes-nous de ceux qui cherchent l'Éternel de tout notre cœur, ou bien sommes-nous de ceux qui se moquent de Christ? C'est une question pour tout un chacun. Ce texte doit nous mettre en garde, car l'agneau immolé, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il n'hésite pas à prononcer l'imprécation sur ceux qui se moquent de lui. Enfin, au dernier verset, « Or, je suis affligé et misérable, mais le Seigneur a soin de moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Dieu, mon Dieu ne tarde point. » On voit Christ affligé, il est toujours confiant dans le Seigneur. On voit qu'il est affligé, mais il est toujours confiant dans le Seigneur. Il dit, le Seigneur a soin de moi. Il sait qu'il prend soin de lui, il sait qu'il est son secours et son libérateur. Il continue à montrer cette patience dont il est parlé au premier verset. Et même il demande au Seigneur de ne point tarder. Et quel exemple de foi pour nous que de voir Christ se préparant à subir le sacrifice le plus terrible, mais gardant confiance dans le Seigneur et sachant qu'il ne tardera point. En fait, il ne demande pas à Dieu de ne pas tarder, il dit « Mon Dieu ne tarde point ». Donc il sait qu'il viendra. Il est patient, il est confiant dans la prière. Voilà, quelques conclusions, donc quatre conclusions sur ce passage. Tout d'abord, nous voulons nous émerveiller en contemplant l'alliance de la rédemption. D'une part, l'enseignement du Père au Fils comme à un disciple. D'autre part, l'écoute docile du Fils. Et en conséquence, sa ferme détermination à faire la volonté du Père et à s'offrir en sacrifice. C'est un grand enseignement de ce passage. Le Christ qui a écouté l'instruction du Père comme un disciple docile. Et en conséquence, sa ferme détermination à faire la volonté du Père, où il dit « Alors j'ai dit, voici, je viens ». Donc il vient s'offrir en sacrifice pour nous. Et ça s'est passé dans l'éternité, au sein de la Trinité. Une chose qui nous dépasse, mais que nous voulons contempler. On veut regarder avec effroi, deuxième point, on veut regarder avec effroi les craintes et les tourments de Christ. Parce qu'il devrait, ces craintes et ces tourments de Christ devraient être nos craintes et nos tourments, et le seront si nous ne sommes pas en Christ, parce que nos péchés sont innombrables comme les cheveux de notre tête. Et ceci doit nous pousser inéluctablement à mettre notre confiance dans l'Éternel, pour que ces tourments nous soient épargnés. Est-ce que chacun d'entre nous mesurons bien cela? Le poids des péchés innombrables, comme les cheveux de notre tête, c'est une vérité qui est dite pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes. Nous devons méditer là-dessus si nous n'en sommes pas convaincus, mais nous devons croire ce que dit la parole de Dieu à cet égard. Et la prise de conscience de ça, elle nous pousse à mettre notre confiance dans l'Éternel pour que ces tourments nous soient épargnés et en fait qu'ils soient mis sur Christ. Alors on veut choisir notre camp. Soit le camp de ceux qui cherchent l'Éternel et qui se réjouissent en lui et ils seront bénis. Soit le camp de ceux qui se moquent de Christ et seront consumés. Se moquer de Christ, ce n'est pas seulement le faire comme ils l'ont fait devant la croix. C'est une attitude de moquerie, une attitude qui ne tient pas compte de lui alors qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Donc attention à ne pas être du parti de ceux qui se moquent de Christ, car ils seront consumés. Troisième point, nous voulons imiter la détermination de Christ dans la prédication de la vérité. Ça, c'est un point important. On veut imiter la détermination de Christ dans la prédication de la vérité. Il ne l'a pas caché, il ne l'a pas dissimulé, mais il a rendu son visage semblable à un caillou. Et il a prêché la vérité quoi qu'il en coûte. Et j'insiste, ça va nous coûter très cher de plus en plus. Je regarde encore une vidéo ce matin où dans l'Assemblée, le Parlement anglais, où il était carrément dit que les évangéliques ne devaient pas continuer, notamment sur la thérapie de conversion, que leurs propos étaient contre la loi. Et une personne qui disait carrément que tout ce que nous enseignons n'est pas légal. Donc ce n'est pas un mythe, ça va venir. Est-ce que nous sommes prêts à rendre notre visage semblable à un caillou et continuer à prêcher la vérité, à ne pas la cacher parce que c'est la vérité, il n'y en a qu'une seule, elle sort de la parole de Dieu. Donc nous aussi, nous ne devons pas craindre de dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Enfin, nous voulons imiter Christ, quatrièmement, imiter Christ dans la prière, quand nous sommes au milieu des afflictions. Une prière patiente, une prière endurante, une prière confiante, qui peut dire « Le Seigneur a soin de moi, il est mon secours et mon libérateur ». Nous sommes parfois dans le bourbier fongeux, dans le puits brillant, en se disant que tout est abandonné, que tout est foutu, pour parler vulgairement, qu'il n'y a pas d'espoir, que le Seigneur nous a abandonnés. Mais Christ, il n'a pas fait ça. Lui, il est resté confiant. Il a continué à prier patiemment le Seigneur. Et il a dit, le Seigneur a soin de moi, il est mon secours et mon libérateur. Prions. Seigneur, merci pour les encouragements de ta parole. Merci pour cette rédemption que tu as décidée au sein de la Trinité entre le Père et le Fils et l'Esprit. Cette alliance de la rédemption que vous avez décidé de nous sauver. Merci Seigneur pour ta détermination à prêcher la vérité. Donne-nous le courage, Seigneur, d'en faire autant. Que nous ayons le courage, Seigneur, de témoigner de toi, comme dit la parole, quand on nous demandera des comptes de l'espérance qui est en nous. Seigneur, donne-nous dans la prière, Seigneur, donne-nous la confiance lorsque nous sommes dans la difficulté, dans l'angoisse, dans le désespoir, justement d'avoir l'espoir en nous tournant vers toi, en te priant avec patience, et en ayant la conviction au fond de nous-mêmes que le Seigneur a soin de moi, il est mon secours et mon libérateur. Donne-nous cette foi, Seigneur, qui souvent nous manque. Enfin, Seigneur, donne-nous de regarder avec effroi et avec crainte les tourments de Christ, de comprendre, Seigneur, que ces tourments sont pour nous, que nous les méritons en totalité, mais que tu les as mis sur ton Fils. Et, Seigneur, lorsque cette crainte aura saisi notre cœur, alors donne-nous, Seigneur, de nous tourner, de ne pas rester dans cette crainte, mais de nous tourner, Seigneur, vers la croix, et de mettre notre confiance dans le sacrifice de Christ que tu as offert pour nous, par amour pour nous. Je te prie, Seigneur, en ce nom de Jésus. Amen.